Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute d'RFI, 23h30 ici à Paris, 22h30 à Dakar, Conakry et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
La peine de mort va-t-elle faire son retour au Burkina Faso? L'annonce a été faite par le ministre de la Justice alors que la peine capitale a été abolie dans le pays en 2018. Nous y reviendrons avec Victor Moria dans ce journal. En RDC, la formation d'une coalition contre la réforme de la Constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du président Tshisekedi. Sursaut national, c'est son nom. Cette coalition est composée de personnalités politiques, de membres de la société civile et de défenseurs des droits humains. Dans l'actualité également, l'île Maurice, 5 millions d'électeurs conviés aux urnes demain pour des législatives. Et puis les sports, le premier club qualifié de la division Ouest pour la Ligue africaine de basket 2025 et le Stade malien. Le gouvernement burkinabé annonce vouloir rétablir la peine de mort. Annonce faite, je vous le disais, hier par le ministre de la Justice. C'était devant les députés lors de l'adoption du projet de loi instaurant les travaux d'intérêt général. Bonsoir Victor Moria.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et à tous.
La peine capitale a été abolie en 2018. Elle pourrait donc faire son retour très prochainement dans la loi du Burkina Faso.
Oui, puisque la question serait déjà en discussion au sein de l'exécutif, selon le ministre et d'Assaut Rodrigue Bayala. Celui-ci évoque de futures modifications du code pénal pour aller dans le sens de la vision et des instructions données par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour l'heure, aucun détail n'a été donné sur le contenu du projet. Selon une source juridique, ce retour de la peine de mort pourrait concerner des infractions de nature terroriste, tout ce qui touche à la trahison ou l'intelligence avec les puissances étrangères et les atteintes à la sûreté de l'État. La peine de mort avait été abolie au Burkina sous le régime de Roch-Marc Christian Kabore en 2018, et ce alors que la justice demandait l'extradition de François Compaoré dans le cadre du traitement du dossier sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons en 1998. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, ses partisans appellent régulièrement à la restauration de la peine capitale pour décourager d'éventuels comploteurs ou des complices d'actes terroristes. Selon Amnesty International, la dernière exécution prononcée par la justice du pays des hommes intègres date de 1998.
Merci. Merci à vous, Victor Moria. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 11 mois de la présidentielle. Pascal Affine-Guessant a été désigné candidat à la présidentielle de 2025 par son parti, le FPI, qui s'est réuni pendant 2 jours en congrès dans la ville de Yamoussoukro. Pascal Affine-Guessant qui a également été reconduit à la tête du parti. En RDC, la contestation monte contre le projet de révision constitutionnelle voulu par le président Félix Tshisekedi. Une nouvelle coalition pour combattre ce projet qui pourrait permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat a été formée. Elle s'appelle Sursaut National. Elle est composée de leaders de la société civile, de défenseurs des droits de l'homme et de personnalités politiques. Et tous ont signé un texte pour dire non à ce projet de révision de la Constitution. À Kinshasa, Patient Legaudi.
En engageant son régime sur la voie du changement de constitution, Félix Tshisekedi trahit la mémoire des non-martyrs, peut-on lire dans cet appel au sursaut national signé par 15 figures de l'opposition de la société civile, dont l'ancien candidat à la présidentielle, Déli Sessanga.
Que ce soit demain ou plus tard, si quelqu'un d'autre arrive avec le même projet, que ferons-nous ? Nous nous y opposerons sans hésitation. Plus jamais dans ce pays, quelqu'un ne viendra et n'essaiera de diriger au-delà de 2 mandats comme président de la République. Nous, Congolais, disons non. Trop, c'est trop.
Du côté de la société civile, on retrouve le mouvement citoyen Lucha ou encore l'Azado. Son président Jean-Claude Katende appelle à une union forte de toutes les couches de la société pour défendre la Constitution.
Il faut que nous, vous et tous ceux qui ne sont pas dans cette salle, nous unissions nos forces. Ce n'est pas l'affaire des seuls hommes politiques ni des acteurs de la société civile. C'est l'affaire de tous les Congolais.
Premier rendez-vous, le 16 décembre 2024, un meeting en hommage au référendum constitutionnel de 2005. Pour le moment, la Moukad Martin Fayulu et les camps de Moïse Katumbi ne font pas partie des signataires, mais mènent leurs propres actions pour dénoncer le projet de révision ou des changements de constitution. Patient Legaudi, Kinshasa, RFI.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 2h34 à Port-Louis. À Maurice, plus d'un million d'électeurs sont conviés aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau gouvernement. Les 340 bureaux de vote ouvrent de 7h à 18h. Près de 900 candidats sont en lice et la bataille pour le pouvoir va se jouer entre deux coalitions majeures. D'un côté, l'Alliance du Peuple, de l'autre, l'Alliance du Changement. Leurs leaders respectifs, Pravin Jugnauth et Navin Ramgoolam, sont au centre de toutes les attentions et l'un des deux devrait reprendre les rênes du pays. Portrait croisé avec Abdullah Erali, notre correspondant à Port-Louis.
Dans la course au poste de Premier ministre, Pravin Jugnauth et Navin Ramgoolam partagent un héritage commun. Tous deux sont issus de la caste hindoue des Vaish et fils d'anciens premiers ministres qui ont marqué l'histoire du pays. Ce Aniro Jugnauth pour l'un et ce Siusaga Ramgoolam, père de l'indépendance mauricienne, pour l'autre. Cependant, les ressemblances s'arrêtent là. À 62 ans, Pravin Jugnauth, avocat de métier, leader de l'Alliance du Peuple et premier ministre sortant, incarne une relative jeunesse face à son rival de 77 ans. Ayant succédé à son père en 2017, il brigue aujourd'hui un troisième mandat consécutif. De son côté, Navin Ramgoolam, à la tête de l'Alliance du Changement, vise un quatrième mandat. Cet ancien médecin, titulaire d'une formation en droit également, a connu depuis 2014 une traversée du désert marquée par des démêlés judiciaires et une interdiction de voyage, interdiction levée exceptionnellement en 2021 pour des soins médicaux en Inde. Cette confrontation historique entre deux héritiers dynastiques tient en haleine toute une nation. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Les prix Earthshot qui ont été créés par le prince William de la couronne britannique récompensent chaque année des initiatives novatrices en matière d'environnement. La quatrième édition s'est déroulée cette semaine au Cap en Afrique du Sud et parmi les cinq heureux lauréats figurent deux Africains, Claire Bargelès.
Dans la catégorie créer un monde sans gaspillage, c'est une start-up kényane qui a su s'imposer. Keep It Cool repense la commercialisation des poissons pêchés au niveau des lacs Victoria et Turkana. Des solutions sont proposés aux petits pêcheurs afin de maintenir la chaîne du froid, notamment avec des glacières solaires. Il est estimé que le gaspillage de près d'un quart des prises est ainsi évité. De plus, ces pêcheurs sont directement connectés aux acheteurs, assurant des revenus plus stables. Ces services fonctionnent de la même manière pour les petits producteurs de poulets. En Afrique de l'Ouest, eux aussi s'attaquent à la question des déchets, cette fois-ci pour limiter les émanations liées aux incinérations dans les décharges à ciel ouvert. GAIO, l'organisation de la jeunesse pour une Afrique verte, a remporté le prix dans la catégorie « Purifier notre air ». Basé au Ghana, ce groupe de jeunes aide des communautés vulnérables à tirer profit d'une valorisation des déchets. Depuis 2019, 70 emplois pour des jeunes, des femmes seules et des personnes handicapées ont été créés. Et l'année dernière, l'organisation a permis d'éviter que 170 tonnes de déchets ne finissent dans des décharges. Kayo a aussi des branches en Ouganda et au Botswana. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Ralia Odinga, le vétéran de la politique au Kenya et ancien Premier ministre, a officiellement lancé sa campagne pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Il s'est exprimé à cette occasion sur la victoire fracassante de Donald Trump aux États-Unis, qui fait son grand retour à la Maison-Blanche. Si Donald Trump veut travailler en tant qu'ami de l'Afrique, nous lui souhaitons la bienvenue. Mais s'il ne veut pas travailler avec nous, l'Afrique a d'autres amis, a dit Raila Odinga, âgée de 80 ans. Le basketball est le premier club qualifié de la division Ouest pour la Ligue africaine de basket et le stade malien. Les Blancs de Bamako ont validé leur ticket en venant à bout de Kadji Sport Academy du Cameroun 80 à 59 lors de la première demi-finale de l'Elite 7 ce samedi. En tout début de soirée à Trècheville, on écoute la réaction de Kabas Kanté, directeur technique du stade malien, tout juste après le match victorieux.
Sentiment de fierté et Abidjan nous a toujours souri. Et dès qu'on a dit qu'on vient à Abidjan, on s'est dit qu'il y a beaucoup de fans du stade malien à Abidjan. Et on est très content, on a travaillé. Les dirigeants nous ont mis dans les conditions nécessaires pour travailler, pour préparer cette compétition. Dieu merci, on est là et avec la qualification en poche. Principalement moi, j'ai fait mon travail depuis Bamako parce que sachant qu'on va les rencontrer soit en demi-finale ou en finale, parce que c'était nos adversaires potentiels. Quand nous, on a fini en Libye, on les suivait de près dans leur compétition au Cameroun. On sait ce qu'on a fait comme travail technique. On a profité de leur faiblesse, surtout les replis défensifs chez eux. Les replis là, on a profité pour accélérer.
Des propos recueillis par Mo Lamine Sy Savané, et c'est la deuxième qualification d'affilée des Bamakois à la Ligue africaine de basket où ils avaient fini troisième l'an dernier. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à vous à l'écoute des RFI, il est 22h40 en temps universel.